Bonsoir Clément Viktorovitch.
Bonsoir.
Cette fois-ci, vous êtes avec nous à Bordeaux et on est très content de vous recevoir pour Logocratie qui est sorti aux éditions du Seuil. Quelle est l'émotion que vous fréquentez le plus tous les jours ?
J'aimerais répondre autre chose, mais en l'occurrence, c'est la colère. Sans le début du commencement de l'ombre d'un doute, c'est de la colère qu'est née en réalité l'écriture de ce livre, celle d'un citoyen qui observe le débat politique en France depuis maintenant des années, mais qui l'observe également à l'international et qui a vu les mensonges, les contradictions flagrantes du réel, les énoncés aberrants, mais prononcer les yeux dans les yeux des citoyennes et des citoyens se multiplier ailleurs où cette réalité a été bien documentée, c'est-à-dire que la démultiplication des paroles, enfin des paroles mensongères au sein de la parole officielle s'est bien documentée en Grande-Bretagne sous Boris Johnson, aux États-Unis sous Donald Trump, évidemment, c'est bien documenté sous Jair Bolsonaro au Brésil. Et je voyais en France, dans le débat public, que j'observe, je crois, d'un œil attentif depuis des années, je voyais les mêmes réalités se dérouler sous mes yeux. Et j'en ai conçu une double colère vibrante. La première, de voir un gouvernement qui parle au nom de l'État, qui justifie, c'est même pire, qui justifie des décisions prises en notre nom à tous et à toutes, citoyennes et citoyens, voir ce gouvernement nous mentir. Première raison de la colère. Deuxième raison de la colère, voir que cela n'était pas repris, cela n'était pas fustigé, cela n'était pas critiqué à la hauteur de ce que là devrait être. Et c'est ce qui m'a inspiré ce livre, Logocratie, que l'on peut présenter de multiples manières. Et je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. C'est un livre de théorie politique qui réfléchit sur ce qui est en train de devenir notre démocratie, ou du moins ce que l'on appelle encore aujourd'hui notre démocratie représentative. Mais c'est aussi une chronique en colère d'un débat public qui part, selon moi, à la dérive.
Et ce livre, vous le dédicacez à votre grand-mère, et on voudrait bien savoir pourquoi. Est-ce que c'est pour cette capacité à s'énerver, à dénoncer ? Est-ce pour la précision avec laquelle vous pointez du doigt, avec vraiment des détails fouillés ? Vous allez chercher d'autres intervenants, d'autres chercheurs que vous citez. Donc il y a une grande exigence dans votre propos. Alors, mamie, pourquoi ?
C'est une question à laquelle je ne réponds pas. Pourquoi est-ce que je dédicace ce livre à la grand-mère ? Cette explication m'est précieuse et pour l'instant, en tout cas, n'appartient qu'à moi. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière, il y a une histoire familiale d'une part, et derrière, il y a aussi et surtout une acuité à l'égard de ce que devient notre démocratie quand la parole publique plonge dans la déloyauté la plus absolue. Et vous faites référence effectivement aux travaux de mes confrères et consoeurs, chercheurs et chercheuses que je cite. C'est un livre de sciences politiques, tout est étayé. Il est accompagné d'une cinquantaine de pages de notes, des centaines et des centaines de références qui sont citées. Chaque fait que j'énonce a été soigneusement étayé. Mais au-delà, c'est aussi un livre qui s'ancre dans l'histoire des idées politiques parce que, au fond, logocratie, j'imagine qu'on va venir sur la définition de ce terme, mais logocratie, c'est une réflexion sur ce que la parole publique fait au régime politique. Une idée que la parole n'a rien d'anodine dans les structures dans lesquelles nous évoluons en tant que société, dans les structures politiques au sein desquelles nous évoluons. Que, au contraire, au sein de ce que l'on appelle démocratie, la parole est absolument centrale. Et que quand la parole se corrompt, c'est l'idéal démocratique lui-même qui derrière s'effondre. Et cette réflexion-là, elle ne naît pas aujourd'hui, au XXIe siècle, elle ne naît pas seulement en constatant les coups de boutoir que Donald Trump aux États-Unis assène à la démocratie états-unienne. Démocratie états-unienne qui est en train de flancher aujourd'hui. Les États-Unis où, après que Donald Trump ait annoncé qu'il lancerait la force armée et la puissance de la justice aux trousses des opposants et aux trousses des personnes immigrées, eh bien, après l'avoir annoncé dans la campagne, on voit que ça existe aujourd'hui. Les États-Unis, aujourd'hui, on voit une milice armée qui ne répond qu'au pouvoir, qui assassine ses propres citoyens dans la rue. Tout cela, Donald Trump l'a énoncé avant de le faire. Et aujourd'hui, pourquoi peut-il le faire? Parce qu'il n'a pas à le dire, parce qu'il n'a pas à l'assumer, parce que Alex Pretty et René Good, qui meurent dans des circonstances absolument terribles sous les coups de la police de l'ICE, eh bien Donald Trump et ses officiels peuvent venir derrière dire « oui, mais c'était des terroristes domestiques, des terroristes de l'intérieur, des agitateurs. Et le plus grand danger, au fond, chez nous, c'est l'ultra-gauche, l'ultra-gauche radicale qui menace le travail de ces braves officiers que sont l'ICE, qui nous demandent rien d'autre qu'à faire leur travail. » Il a annoncé ce qu'il avait faire. Il a annoncé ce qu'il allait faire, et maintenant qu'il le fait, il n'a plus à le dire. Il peut couvrir ses réalités de mensonges. Eh bien, tout cela, ça ne date ni d'aujourd'hui en France, ni d'hier aux États-Unis. George Orwell en parlait déjà à l'époque. George Orwell, quand il écrit 1984, c'est en partie pour cela. C'est en partie parce que il était déjà effaré et terrifié de ce que les dérives de la parole peuvent faire dériver la démocratie représentative, en tout cas, à tout le moins. Et c'est aussi le sens des travaux de Hannah Arendt, qui observe justement comment est-ce que, au fondement du totalitarisme, de ce qu'elle appelle le totalitarisme, eh bien, il y a la capacité justement à produire une parole mensongère qui n'a plus à respecter le réel, qui peut le contredire les yeux dans les yeux. C'est aussi ce que constate Victor Klemperer quand il étudie la parole nazie, la parole du régime nazi, et qu'il voit comment est-ce que le régime nazi s'installe par la langue. Que le régime nazi s'installe dans la manière dont il est parlé par non seulement les officiels nazis, mais également les Allemandes et les Allemands qui laissent leurs propres paroles se corrompre par des expressions sans fondement, voire même des expressions dont le sens a été corrompu, retourné sur lui-même. Et derrière, les soviétologues qui ont observé comment est-ce que dans l'URSS, dans les pays du bloc de l'Est, eh bien là aussi, une forme de surréalité s'installe dans le discours. Le discours officiel se permet de contredire le réel, les yeux dans les yeux, n'a plus rien à voir avec les choses telles qu'elles sont et telles que tout le monde peut les constater. On peut mentir sans avoir à en payer le prix. Il y a une longue histoire qui court durant tout le XXe siècle, qui nous montre combien est-ce que le moment où un gouvernement qui dispose de la force, de la puissance publique, de la force de la police, de la force de l'armée, dont la parole engage l'État et dont les décisions engagent le peuple, quand un gouvernement laisse sa parole se corrompre par le mensonge, alors derrière les choses finissent très mal. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui sous Donald Trump, et nous l'expérimentons en France, avec d'ailleurs des conséquences, je ne sais pas si elles sont tout aussi terribles, mais elles sont terribles, quoi qu'il arrive, depuis 8 ans. Et donc, c'est cette colère vibrante qui m'anime. Sans rentrer dans le détail, c'est aussi cette colère vibrante qui m'a amené à dédicacer ce livre à ma grand-mère et qui a fait que son écriture a été pour moi non pas une envie, mais une nécessité.
Et logocratie, vous l'avez dit, on va y revenir. Donc dans votre livre, vous dites on pourrait le traduire par le gouvernement, par la parole, parce que vous passez effectivement un temps précieux dans ce livre à nous expliquer en quoi le mensonge, s'il a toujours existé, est devenu une norme, et en quoi finalement il est question du vocabulaire au départ, mais pas seulement, puisque vous nous dites cette norme pour Donald Trump ou pour même Boris Johnson, elle finit par inventer des mots, les fake news médias, vous parlez d'islamo-gauchisme, de l'ensauvagement. Finalement, elle donne une nouvelle palette langagière, d'une part, mais ce que vous dites, c'est au-delà du discours, ça entame l'état de droit et la souveraineté du citoyen.
Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a plusieurs dimensions importantes dans votre question. La première qui me permet immédiatement de répondre aux deux objections que j'entends tout le temps, et une partie de celles et ceux qui nous écoutent en ce moment même ont sans doute ces objections à l'esprit, donc répondons-y immédiatement. Première objection, oui mais n'es-tu pas un peu catastrophiste? N'es-tu même pas un peu naïf de t'émouvoir ainsi, de voir la parole politique être corrompue par le mensonge? Mais enfin, mon bon monsieur, la politique et le mensonge ont parti lit depuis si longtemps. C'est vrai. C'est tellement vrai que c'est par cette remarque que Hannah Arendt commence ses propres travaux consacrés au mensonge. C'est tellement vrai que toutes les personnes qui ont travaillé sur le lien entre le mensonge et la politique remontent jusqu'à Platon, en observant que Platon lui-même, déjà à l'époque, disait que, en effet, dans la gestion des affaires de la cité, le mensonge est une arme au service de ceux qui gouvernent, une arme même, disait Platon, parfois légitime. Machiavel a consacré évidemment des pages entières à la raison d'État, au mensonge et à la manière dont c'est un outil au service du prince. Donc, qu'il y ait partie liée entre politique et mensonge, et que ce soit connu depuis très longtemps, c'est vrai. Mais il faut observer, effectivement, et vous l'avez ébauché, il faut observer malgré tout en quoi nous avons basculé dans une nouvelle ère du mensonge. Cette nouvelle ère du mensonge, elle est à la fois quantitative et qualitative. Quantitative. Hier encore, et quand je parle d'hier encore, c'est la deuxième moitié du XXe siècle, le tout début du XXIe siècle, hier encore, le mensonge restait le dernier expédient, le dernier recours auquel avaient recours précisément les responsables politiques quand ils ne pouvaient plus faire autrement. C'était la dernière stratégie à laquelle on se résolvait pour tenter de camoufler une réalité trop dure, trop dangereuse, trop accablante pour pouvoir être énoncée. C'était même parfois le mensonge d'État pour tenter de passer sous silence des réalités qui auraient été trop douloureuses. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en France, l'idée que tous les Français et toutes les Françaises étaient résistantes et résistants. On sait bien qu'il n'en est rien. C'est pourtant une forme de discours qui s'est imposée. Et c'est vrai, c'était un mensonge, bien sûr. C'est, pour rester en France, les diamants de Bocassa, de Valéry Giscard d'Estaing. C'est même, plus récemment, Jérôme Cahuzac et son mensonge « Les yeux dans les yeux ». Donc, bien sûr, et on pourrait parler de Bill Clinton aux États-Unis, bien sûr que le mensonge a toujours existé.
Et tout ça est dans votre livre, hein, je précise.
Voilà, c'est des choses sur lesquelles, évidemment, je reviens. Aujourd'hui, ce ne sont plus quelques mensonges qui quelques mensonges qui viennent trouer la continuité de la parole politique ordinaire. Aujourd'hui, les mensonges tissent la quotidienneté de la parole du gouvernement. Et on l'a vu aux États-Unis sous Donald Trump. Dès le premier mandat, le Washington Post aux États-Unis, à l'époque, s'emploie à quantifier comme il le peut les mensonges et les imprécisions émises par le président Trump durant son premier mandat. Ils arrêtent leur décompte à plus de 30 000 en 4 ans. Plus de 30 000 mensonges et imprécisions. Boris Johnson, au même moment, 2016, pendant la campagne du Brexit, démultiplie les mensonges, au point que un journaliste britannique, Peter Oborn, finisse lui aussi exaspéré, en colère, devant un Premier ministre, un candidat à l'époque, même pas candidat d'ailleurs, un acteur du débat public, mais représentant d'un grand parti conservateur respectable, ulcéré donc de voir Boris Johnson mentir matin, midi et soir durant la campagne du Brexit, finit par décider de répertorier ses mensonges. Et là aussi, on en compte des dizaines et des dizaines. Derrière, devenu Premier ministre, il y aura des dizaines et des dizaines de mensonges devant le Parlement britannique. Alors ça n'a l'air de rien quand on dit ça ici. Bon oui, mentir devant le Parlement, la belle affaire. En Grande-Bretagne, jusqu'à Boris Johnson, c'était un authentique tabou qui a été brisé à des dizaines de reprises par Boris Johnson. Et en France, là aussi, et ça pour le coup, c'est mon travail, modestement, que j'ai tenté de faire dans Logocratie, des dizaines et des dizaines d'occurrences de mensonges que je répertorie dans le livre et qui, me semble-t-il, ne peuvent pas être remis en doute. Ça n'est pas la parole d'un militant, ça n'est pas une parole polémique, ça n'est pas un pamphlet, c'est le livre d'un chercheur qui a documenté soigneusement chaque affirmation et chacun et chacune pourra vérifier. Donc, c'est d'une part une rupture quantitative, avec des dizaines de mensonges qui parsèment désormais la parole politique et qui en sont devenus la toile quotidienne plutôt qu'en d'en être une rupture brutale. Première rupture. Deuxième rupture, elle est qualitative. C'est que auparavant, les responsables politiques précisément mentaient. La définition du mensonge, la définition, c'est qu'ils cherchent à masquer, maquiller, camoufler la réalité. C'est la définition du mensonge. C'est qu'il cherche à ne pas être repéré parce qu'il vise précisément à masquer une réalité trop dangereuse ou douloureuse pour pouvoir être énoncée. Aujourd'hui, ce ne sont même plus des mensonges. Ce sont, et je ressors le mot, je tente de le repopulariser, ce sont ce que j'appelle des anticatastases, c'est-à-dire des contradictions flagrantes du vrai. Des mensonges qui ne prennent même plus la peine de se maquiller eux-mêmes. L'objectif, ça n'est plus de dissimuler la réalité, c'est de la contredire. Les yeux dans les yeux. Preuve en est que les mensonges dont je parle, tout le monde peut les constater sans avoir même à les décrypter, sans avoir même à faire de recherche. Quand, en Grande-Bretagne, Boris Johnson prétend pendant la campagne du Brexit que, en quittant l'Union européenne, la Grande-Bretagne récupérerait 350 millions de livres par semaine et que cela pourrait être réinjecté dans le système de santé britannique. C'est un mensonge. Le chiffre est grossièrement, incroyablement surévalué. Non seulement c'est un mensonge, mais tout le monde le sait. Les statistiques officielles le contredisent. Tous les chercheurs s'expriment pour dire « non, ça, pardon, c'est pas vrai ». Ça n'est pas vrai, oui. Effectivement, la Grande-Bretagne est contributrice nette au budget de l'Union européenne, mais pas du tout à ce point, pas du tout. Tout le monde sait que c'est faux. C'est contredit par des sources officielles. Non seulement Boris Johnson continuera de le dire matin, midi et soir, mais il va l'inscrire en lettres immense sur son bus de campagne avec lequel il parcourt toute la Grande-Bretagne. Aux États-Unis, quand Donald Trump nous dit, en parlant des migrants haïtiens, il mange des chats et des chiens, il mange des animaux de compagnie, c'est faux. Non seulement c'est faux, mais il n'y a même pas le début du commencement d'un fait divers qui irait dans ce sens. C'est de la narration, c'est du récit. Il a inventé une histoire. Tout le monde le sait. Les décryptages sont immédiatement publiés. Ça avait déjà été pré-débunké, puisque ça n'était pas le premier à faire courir cette fake news. Il le dit, il l'affirme, et il peut le faire sans avoir à en payer le prix. Et en France, je démultiplie les exemples dans le livre, donc je vais peut-être pas prendre ceux qui sont écrits, je vais prendre ceux qui ont été énoncés depuis, parce que là aussi, ça ne s'arrête jamais. Prenons Elisabeth Borne, par exemple, ancienne première ministre, à l'époque où elle s'exprime, elle est simple députée, quelques semaines plus tard, elle va redevenir ministre de l'Éducation nationale, numéro 3 du gouvernement. Elisabeth Borne, on est en... Si ma mémoire ne me trompe pas, on est en décembre 2024. Le gouvernement de Michel Barnier va affronter une censure à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne, pour tenter de dissuader une partie des députés de voter cette censure, s'exprime dans les médias. Elle dit la chose suivante. Si vous votez la censure, la carte vitale cesse de fonctionner, les retraites ne sont plus payées, les fonctionnaires non plus. C'est faux. Non seulement c'est faux, mais elle sait que c'est faux. Non seulement elle sait que c'est faux, mais tout le monde sait que c'est faux. Pourquoi ? Parce que là aussi, des économistes, des juristes, des constitutionnalistes se sont exprimés. Tous ont dit, publié à l'époque, de manière tout à fait visible, tout à fait reconnue, ça circulait dans le débat public, le fait qu'il y avait des voies de recours, qu'on pouvait voter une loi spéciale, que ça avait déjà été fait et que non, il n'y aurait pas de shutdown. Quand elle dit cela, elle ment. Elle sait qu'elle ment, elle le fait sciemment, nous savons qu'elle ment. Non seulement elle n'a pas à en payer le prix sur le moment, mais quelques semaines plus tard, elle est récompensée de son mensonge par le poste de numéro 3 du gouvernement. Cet exemple, j'en ai des dizaines et des dizaines, je pourrais passer la soirée et à les énumérer. Donc, double rupture, quantitative et qualitative. Les mensonges ont essaimé et les mensonges s'énoncent désormais les yeux dans les yeux aux citoyennes et aux citoyens sans que les responsables politiques aient à en payer le prix. Voilà la rupture qui existe et qui permet de démontrer que non, il y a bien une nouvelle ère du mensonge en politique. La deuxième objection, et j'y réponds, c'est le fait de dire finalement, bon d'accord, ok, peut-être qu'on ment et qu'on ment un peu plus aujourd'hui, mais pourquoi tant acharner sur le gouvernement alors que les oppositions mentent, que les groupes d'opposition aussi, c'est vrai. Parfaitement vrai. Les groupes d'opposition mentent, bien sûr. Les députés responsables du Rassemblement national mentent quasi quotidiennement. On trouve des mensonges au sein même des responsables socialistes, écologistes, insoumis, bien sûr, bien évidemment. Et d'ailleurs, je n'hésite pas, moi, dans ma vie d'analyste du débat public, à les documenter. Mais n'oublions pas que l'opposition, quand elle ment en son propre nom. Elle ment dans une sphère de l'expression qui est la sphère de la compétition électorale. Elle ment pour espérer retrouver ou parvenir aux affaires. Quand le gouvernement ment, je le répète, il ment avec toute la force et la puissance de l'État, et il ment pour justifier des décisions prises en notre nom. C'est une toute autre sphère de la parole publique qui implique des responsabilités. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la grille d'analyse de Pierre Rosanvallon. Donc voilà le monde dans lequel nous vivons. Nous avons basculé dans une nouvelle ère du mensonge, et elle a, et vous le soulignez à juste titre, elle a des conséquences absolument terribles. Toute l'idée derrière logocratie, c'est l'idée que donc la logocratie, précisément, puisqu'on n'a pas encore défini le terme, la définition, nous sommes arrivés dessus, c'est une pratique du pouvoir qui s'impose quand le détenteur du pouvoir se permet de contredire le réel les yeux dans les yeux, quand la parole officielle s'affranchit du réel. C'est la définition même du logocratie. Pour le dire encore plus simplement, la logocratie, c'est la pratique du pouvoir dans laquelle on bascule quand le gouvernement se décide à utiliser le mensonge comme un mode quotidien de communication. Et cela a des conséquences qui sont absolument délétères. En effet, à partir du moment où on n'a plus à dire ce que l'on fait, alors on peut faire ce que l'on n'aurait pas pu dire. Et c'est ce que l'on observe aujourd'hui. Dans ce livre, je montre notamment comment est-ce que, dans tous les pays qui ont basculé dans la logocratie, la première chose qui est remise en cause, ce sont les institutions de l'État de droit. C'est les droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens. En France, on l'a observé, le droit de manifester a été brutalement remis en cause. Brutalement remis en cause. Et bien sûr, je pourrais énoncer la quantité de rapports qui se sont accumulés, qui démontrent combien est-ce qu'aujourd'hui, le droit de manifester est obstrué, combien même les manifestations sont réprimées. C'est pas moi qui le dis, quantité de rapports, tout est cité dans le livre. Je pourrais citer... Le projet de loi qui était celui du gouvernement, la loi anti-casseur, qui visait à instaurer une interdiction administrative de manifester. La possibilité pour les préfets, et donc au-delà des préfets, le gouvernement, de dire « toi, toi, toi et toi, vous ne manifesterez pas ». Pour quelle raison ? Parce que je l'ai décidé. C'était une remise en cause brutale, liberticide du droit de manifester. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel qui a censuré la mesure. Donc, Les preuves de cette remise en cause se sont accumulées, mais j'ai même pas besoin, en réalité, de citer ces sources que j'énonce dans le livre. Il suffit à chacun et chacune de demander autour de lui, de se demander soi-même, de demander à ses amis, à chaque manifestation, est-ce que tu comptes aller manifester ? Est-ce que je compte aller manifester ? Et de constater combien on entend aujourd'hui de personnes dire « Non, je vais pas descendre manifester parce que j'ai la trouille ». Parce que j'ai la trouille d'y laisser un œil. Parce que j'ai la trouille d'y laisser une main. Parce que j'ai la trouille d'y laisser la vie. Non, je ne vais pas descendre manifester avec mes enfants. Parce que j'ai une bonne chance sur deux de me retrouver pris dans un nuage de gaz lacrymogène et que je n'ai pas envie d'exposer mes enfants à un nuage de gaz lacrymogène. Moi, j'ai 41 ans, je suis né en 1984. J'ai vécu la première partie de ma vie durant le XXe siècle. Moi, j'ai des souvenirs dans la fin du XXe siècle de manifestations où j'allais gamin avec mes parents. Et où nous étions loin d'être la seule exception. On manifestait en famille à la fin des années 90. Plus personne ne manifeste en famille aujourd'hui parce que les parents ont peur, et c'est bien légitime pour ses enfants. Mais dans quelle démocratie les gens ont peur d'aller manifester ? On s'émeut aujourd'hui de voir ce qui se passe aux États-Unis où les manifestants sont réprimés. Mais comment sont-ils réprimés ? Alors, ils sont réprimés, certains y laissent la vie... Effectivement, avec des tirs d'armes à feu, des Françaises et des Français aussi, et des habitants et des habitantes aussi en France ont laissé la vie sous les balles de la police. Mais ce dont on parle moins en France, et pourquoi on en parle moins ? Parce que ça ne nous choque pas, c'est que les manifestations aux États-Unis sont réprimées à coups de flashball, à coups de LBD, à coups de gaz lacrymogène, à coups de grenades de désencerclement. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui le gouvernement de Donald Trump, dont tous les observateurs aux États-Unis soulignent qu'il est en train de basculer dans une pratique autoritariste du pouvoir, employer les méthodes de répression des manifestations qu'on connaît en France depuis maintenant 8 ans, 9 ans même, puisqu'on peut remonter aux manifestations contre la loi travail de Myriam El Khomri. Donc, on voit bien que le droit de manifester a été remis en cause brutalement en France. Non seulement le droit de manifester, mais, et je le documente aussi dans le livre, toutes les institutions qui permettent précisément de rappeler le gouvernement à ce qu'il fait. Toutes les institutions qui constituent précisément des garde-fous contre la dérive de la parole publique dans la contrefactualité, dans le mensonge. Les universités ont été attaquées. Elles ont été attaquées, c'est documenté amplement, aux États-Unis, bien sûr, bon, avec des définancements massifs, avec des champs d'études complets qui, aujourd'hui, subissent des pressions incroyables, à commencer par les études de genre, à commencer par les études qui cherchent à documenter les discriminations raciales, les discriminations en général, d'ailleurs. Bon. Au Brésil, bien sûr, les universités ont été attaquées. Mais en France aussi. Il y a une loi en France qui est passée, mais qui a été amendée. Elle a été amendée parce que les universitaires se sont mobilisés. Il y a une loi qui entendait remettre en cause les libertés académiques, qui entendait demander aux chercheurs et aux chercheuses d'avoir des enseignements en amphi qui respectent les valeurs de la République. Tout le monde sera d'accord avec l'objectif. Alors, personne en France ne sera en désaccord avec l'idée que les enseignements doivent respecter les valeurs de la République. Problème, les valeurs de la République ne sont nulle part définies juridiquement. Nulle part. Ça n'est pas un concept juridique. Rien, nulle part, à aucun moment dans le corpus normatif français, ne définit les valeurs de la République. Demander les chercheurs de respecter quelque chose qui n'est pas défini, tout le monde voit bien. Comment est-ce que, aux mains d'un gouvernement qui fustige par ailleurs l'islamo-gauchisme des universités, qui fustige le wokisme, aux mains, demain peut-être, d'acteurs du débat public, tels que Bruno Retailleau, tels que le Rassemblement national, qui fustige, bon, le wokisme, les macronistes l'ont fait aussi, mais qui fustige les études de genre, qui nous expliquent que les études universitaires en France sur la discrimination seraient absolument inacceptables et au lieu de documenter les discriminations, les relayerait. Bon, c'est ça qu'on entend chez Éric Zemmour, chez Retailleau. Bon, on imagine bien comment est-ce que, aux mains de ceux-là, et même de celles et ceux qui nous gouvernent déjà aujourd'hui, les valeurs de la République, à partir du moment où elles ne sont pas définies normativement, peuvent être instrumentalisées et peuvent être utilisées justement pour silencier une partie des universitaires. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des centaines et des centaines d'universitaires qui se sont à l'époque émus à tel point que le gouvernement a dû faire marche arrière. Mais la volonté était là. La volonté était là. Les amendements ont bien été déposés et soutenus par le gouvernement. La presse, qui évidemment fait l'effet des coups de boutoir de Donald Trump, de Bolsonaro, mais en France aussi, l'APP, Association de la presse présidentielle, depuis l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron, n'a eu de cesse de publier des communiqués pour s'alarmer du fait que Emmanuel Macron tenait la presse à l'écart, essayait de choisir les journalistes qui l'accompagnaient, voire organisait des déplacements officiels en tenant les reporters à l'écart. Plusieurs fois, l'Association de la presse présidentielle a dit, je la cite approximativement, mais je la cite néanmoins, si des choses comme ça se passaient dans d'autres démocraties, les journalistes français seraient les premiers à s'en alarmer. Et plus généralement, le débat public français serait le premier à le stigmatiser. Ça arrive, c'est déjà chez nous. L'une des premières choses que fait Emmanuel Macron, une fois arrivé à l'Élysée, c'est tenter de faire fermer la salle de presse de l'Élysée, si ça, c'est pas du symbole. Bon. Et je ne parle pas des journalistes, des reporters, des preneurs d'images qui ont été la cible des forces de l'ordre lors des manifestations de Gilets jaunes. La cible, là encore, les rapports affluent, les témoignages aussi. Les ONG, on l'a presque oublié, mais là où toujours les associations sont attaquées par Bolsonaro, par Trump, en France aussi, je rappelle que Gérald Darmanin a tenté, il a échoué, il a été remis à sa place en l'espèce par le Conseil d'État, sa décision a été annulée par le Conseil d'État, mais il a tenté de dissoudre les soulèvements de la terre. Le Conseil d'État non seulement a annulé la décision, mais en rappelant que toute dissolution d'association était un acte grave et ne devait être pris qu'avec la plus grande des parcimonies. Et là, en l'occurrence, c'était une décision qui s'insérait dans quoi ? Dans le fait de stigmatiser les manifestants à Sainte-Soline, manifestants écologistes, comme étant des éco-terroristes. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui aux États-Unis ? On entend Donald Trump nous dire d'Alex Preti et René Good qu'ils appartiennent à des réseaux de terroristes. Et qu'est-ce qu'on observe 2 ans plus tard, au moment où les vidéos sortent sur Sainte-Soline ? On observe qu'à Sainte-Soline, oui, des actions gravement illégales ont été commises par les gendarmes, avec des tirs tendus qui ont mis en danger, blessés, parfois même blessés jusqu'à engager le pronostic vital, une partie des manifestants. Et que ces tirs tendus n'ont pas été faits par quelques brebis galeuses, mais que c'est la hiérarchie qu'on entend, vidéo à l'appui, demander aux gendarmes de tirer à tirs tendus sur les manifestants. Et on les entend derrière se féliciter, non pas dire « ouf, on l'a échappé belle, on a été menacé, on a eu peur pour notre vie, on a tiré », mais dire « on s'est régalé, on était là pour ça ». Ça se passe en France aujourd'hui. Et on est tous en train de s'émouvoir de ce qui se passe aux États-Unis. De la mort de René Good, de la mort d'Alex Preti, des agissements de l'ICE, et on s'en émeut à juste titre. Mais quelle différence fondamentale avec ce que l'on vit depuis maintenant 8 ans. Et comment est-ce possible d'avoir vu ainsi le droit de manifester être mis en cause, d'avoir vu des institutions, l'université, la presse, les ONG, qui sont justement des gardiennes de l'état de droit et des gardiennes de la parole publique, comment est-ce possible d'avoir vu tout cela être remis en cause en France sans que nous soyons des millions et des millions dans la rue ? La réponse est simple, par le mensonge, en nous mentant, en contredisant la réalité les yeux dans les yeux, en répétant matin, midi et soir, il n'y a pas de violence policière. Gérald Darmanin, quand j'entends le mot violence policière, je m'étouffe. Il réussit à dire cela quelques mois après le décès de Cédric Chouviat en France, quelques mois après le décès de George Floyd aux États-Unis. Je m'étouffe. Si ça, c'est pas de la provocation. Emmanuel Macron, qui dit « ne parlez pas de violence policière », le mot est inacceptable dans un état de droit. Pour lui, c'est le mot qui est inacceptable et pas les réalités qu'il désigne. Le gouvernement, et tout ce que je dis là est factuel, tout ce que je dis là est étayé, tout ce que je dis est vérifiable, tout ce que je dis a fait l'objet de dizaines et de dizaines de rapports, issus d'associations, issus d'autorités officielles, telles que le Défenseur des droits, telles que la Commission nationale des droits de l'homme, des institutions internationales, certains rapporteurs de l'ONU, certains rapporteurs du Conseil de l'Europe, tout cela a été documenté. On a accepté tout cela, ou du moins accepter sans doute pas, laisser faire, c'est indubitable, on a laissé faire tout cela, et comment est-ce que tout cela est passé en nous mentant, les yeux dans les yeux, en ne cessant de contredire le réel. C'est ça la définition d'une logocratie. Et c'est ça qui se passe quand un pouvoir se permet de contredire le réel et de mentir à ses citoyens matin, midi et soir, les yeux dans les yeux, sans en payer le prix.
Et ce discours-là, comme vous l'avez souligné, il est repris par des médias, ou en tout cas, il est complice, finalement, d'une façon de se répandre. Et vous citez les réseaux sociaux en disant que cette histoire d'algorithme nous conforte dans une pensée, alors que pourtant, c'est une promesse démocratique donc, quoi, qu'on n'utilise pas.
Oui, là aussi, il y a deux questions de votre question, et les deux sont importantes. Bon, la première sur laquelle vous m'interpellez, le rôle des médias. C'est une question qui m'est beaucoup posée. N'y a-t-il pas une responsabilité du monde médiatique de documenter tout cela? N'y a-t-il pas une responsabilité du monde médiatique, des journalistes, reporters, intervieweurs, intervieweuses, d'aller ramener les responsables politiques à la réalité des faits quand ils constatent une parole mensongère? De toute évidence. Ce que je peux vous dire sur cette question, c'est que, aux États-Unis notamment, en Grande-Bretagne également, sous la plume de Peter O'Born, que je citais tout à l'heure, le rôle des médias a été documenté dans l'avènement de ce que eux n'appellent pas, mais que moi j'appelle une logocratie. Que bien évidemment, il faut, à un moment donné ou à un autre, une forme de complaisance d'une partie des médias au moins, sinon des médias, du moins d'une partie des journalistes, des intervieweurs. Il faut une forme de complaisance pour que un tel mensonge à ciel ouvert puisse s'imposer. Est-ce que nous avons vécu la même chose en France? Pour le coup, c'est une autre étude qu'il faudrait faire, qui relève d'une autre expertise que la mienne. Moi, j'ai toujours été un analyste de la parole publique, de la parole politique. J'ai jamais fait des media studies, j'ai jamais été un analyste de la parole médiatique. D'autres collègues, confrères, consoeurs, s'en sont fait une spécialité. Plusieurs études ont déjà été publiées en France qui semblent poindre dans cette direction, notamment, pas seulement, mais notamment les travaux de Julia Cagé, les travaux de Claire Sécaille aussi. Il faut, je pense qu'il est temps que les chercheurs, chercheuses, mes confrères, consoeurs, se penchent aussi sur cette question. Première réponse. Deuxième question sur les réseaux sociaux. Évidemment que la question que l'on se pose, c'est, bon, pourquoi est-ce que tout cela arrive maintenant? C'est-à-dire que tout arrive au même moment. Donald Trump, la campagne électorale, c'est 2016 aux États-Unis. Boris Johnson, la campagne électorale, la campagne du Brexit, c'est 2016 en Grande-Bretagne. Et en France, Emmanuel Macron commence la campagne électorale en 2016. Donc, tout arrive au même moment. Et effectivement, on peut se poser une question de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, pour le coup, c'est là où je me suis appuyé sur les travaux d'autres confrères et consoeurs, d'autres chercheurs et chercheuses, qui montrent bien comment est-ce que, en effet, partout, dans, en tout cas, nos démocraties représentatives, partout s'est instauré ce qu'on appelle une ère de la post-vérité. Une ère de la post-vérité, c'est-à-dire un état du débat public, dans lequel s'installe chez les citoyennes et les citoyens une forme d'indifférence au vrai et au faux. C'est important parce que le mot de post-vérité, il est aujourd'hui de plus en plus utilisé, parfois mal utilisé. Et donc je pense que c'est important d'en revenir aux définitions. L'idée de la post-vérité, c'est une idée qui nous concerne chacun et chacune d'entre nous. Profondément, la post-vérité vient nous chercher, nous, citoyennes et citoyens, dans notre intériorité. C'est nous qui la laissons advenir, la post-vérité. C'est nous qui acceptons, ou du moins nous laissons glisser, dans un état psychologique où le vrai n'est plus notre valeur cardinale. L'idée de la post-vérité, c'est un état du débat public qui s'installe quand les citoyennes et les citoyens ne cherchent plus à croire avant tout ce qui est vrai, mais préfèrent croire ce qui leur plaît. Préfèrent croire ce qu'ils, elles, ont envie de croire. Et cela s'incarne dans une réflexion que sans doute certains et certaines, et même sans doute nombreuses et nombreux parmi nous avons déjà eue, quand nous voyons un homme politique, ou au-delà d'un homme politique, même un acteur du débat public, être attrapé la main dans le sac d'une déclaration fausse, erronée, approximative, voire mensongère, et que nous nous disons, ok, d'accord, c'est peut-être pas tout à fait vrai, d'accord, mais c'est vraisemblable. Ça pourrait être vrai. Et si ça, précisément, c'est pas vrai, il y a autre chose à côté qui doit l'être, et qui s'en rapproche, ou qui va dans la même direction. Et donc, même si, d'accord, là, peut-être que lui ou elle n'a pas été tout à fait irréprochable dans sa parole publique, mais par contre, il pointe quand même dans une direction qui me parle, qui me plaît, dont je suis déjà convaincu, et donc je vais continuer d'apporter mon crédit et ma confiance à cette personne. C'est ça l'ère de la post-vérité. C'est le moment où nous acceptons de laisser s'installer en nous une forme d'indifférence au vrai ou au faux. Là où je pense, Et j'en reviens à cette idée de colère, là où je pense que nous devrions férocement rechercher le vrai et férocement nous indigner du faux quand nous le repérons chez un acteur ou une actrice du débat public, y compris quelqu'un en qui nous avons placé notre confiance, y compris quelqu'un qui défend les mêmes idées ou les mêmes idéaux que nous. Et comment s'instaure cette forme d'indifférence? Et là, pour le coup, c'est tout à fait documenté. C'est effectivement, ça a effectivement trait aux espaces numériques algorithmés. Ça, c'est pour le dire rigoureusement. Si on veut le dire un peu vite, et malheureusement, c'est pas totalement faux, c'est un peu la faute aux réseaux sociaux, qui sont des espaces numériques algorithmés et qui ont tendance à nous enfermer dans une chambre d'écho, c'est-à-dire un espace numérique où nous entendons avant tout l'écho de notre propre pensée, où nous sommes confortés dans l'écho de notre propre pensée. Et donc, pour aller vite concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est que quand un responsable politique, Donald Trump par exemple, Emmanuel Macron, Jordan Bardella, on pourrait continuer l'énumération longtemps, quand un homme ou une femme politique ment, ses supporters, ses électeurs, ses électrices seront exposés au mensonge et seront très peu exposés à la réfutation du mensonge, seront très peu exposés au débunkage, tel qu'on les appelle. Et quand ils sont exposés au débunkage, parce qu'ils le sont malgré tout, ils le sont avec une forme de disqualification a priori. Ils voient arriver le débunkage accompagné d'un commentaire sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, accompagné d'un commentaire. « Oh, vous avez vu? Voilà encore le Monde qui verse, le Monde, le journal, le Monde.fr, voilà encore le Monde qui verse dans l'anti-FNisme, l'anti-insoumisme, l'anti-socialisme, l'anti-macronisme. » Et voilà l'organe de presse disqualifié tout entier pour que la réfutation ne porte pas son efficacité. Donc, et ça, c'est la structure des réseaux sociaux. Ça, pour le coup, des espaces numériques algorithmés, puisque les réseaux sociaux ne sont pas les seuls espaces numériques algorithmés. C'est la structure des espaces numériques algorithmés qui nous enferme dans l'écho de notre propre pensée et qui vient nous inoculer contre la réfutation, puisque la réfutation est toujours, ou très souvent, ou la plupart du temps, accompagnée d'une forme de commentaire déjà disqualifiant. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un état du débat public qui s'installe, comme je l'ai dit, dans toutes les démocraties représentatives, qui a trait à la structure du web aujourd'hui, très largement. C'est pas pour ça que tous les gouvernements basculent dans la logocratie. La France l'a fait, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Brésil, l'Argentine aujourd'hui l'ont fait, l'Allemagne ne l'a pas fait. Le Portugal ne l'a pas fait, l'Espagne ne l'a pas fait. En Espagne, il y a quelques mois, il y a une députée qui a dû démissionner de son poste parce qu'elle avait menti sur un de ses diplômes. Le problème, ce n'est pas qu'elle ait menti sur un de ses diplômes. Le problème, c'est qu'elle ait menti. Et ça lui a coûté son poste. En France, on a un Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a menti sur un de ses diplômes. De la même manière, ça a été démontré factuellement par des journalistes. Il est toujours Premier ministre. Là, on voit bien que si l'ère de la post-vérité est un état du débat public qui s'impose à nous, la logocratie, elle, c'est une décision qui est prise par les gouvernants.
Parce que sur le gouvernement d'Emmanuel Macron, sur Emmanuel Macron lui-même d'une part, et sur ses ministres, vous pointez du doigt le fait qu'en arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron se présente comme représentant la vérité, et vu de l'étranger comme une personnalité qui, au contraire, va quelque part enfin poser une vérité criante.
Oui, tout à fait. Et effectivement, la remarque est excellente et elle revient à la source de ce que je qualifiais de colère en introduction. Boris Johnson, comme Donald Trump, comme Jair Bolsonaro, comme Javier Milei en Argentine aujourd'hui, ont tous pour point commun d'avoir été dénoncés dans leurs mensonges. Pourquoi ? Parce que tous ont assumé un style de gouvernement, alors pour le dire plus justement en termes rhétoriques, un ethos, donc une forme d'image publique, un style de gouvernement, un ethos qui était justement en rupture avec les canons de respectabilité du pouvoir politique. Donald Trump qui s'affiche à la Maison Blanche devant des piles de Big Mac, Boris Johnson qui se présente dépeigné, décoiffé et qui s'adresse dans un anglais relâché à ses confrères et consoeurs au Parlement britannique, Javier Milei qui brandit sa tronçonneuse, Elon Musk qui a brandi la même tronçonneuse qui lui avait été offerte par Javier Milei. Bon, donc on voit que tous ont assumé une forme d'éthos, de style de gouvernement que l'on a qualifié de populiste. Alors le mot, il faudra encore être capable de le définir, hein. C'est un mot qui aujourd'hui fait l'effet de définition concurrente et qui souvent est utilisé sans être très bien défini. Mais c'est un style de gouvernement que de nombreux observateurs ou observatrices vont qualifier de populiste. En France, ce n'est pas le cas. Le gouvernement d'Emmanuel Macron s'est présenté bien peigné, soigneusement habillé, bien cravaté, utilisant un langage châtié, se coulant dans le costume du président de la République, non pas le costume du président normal qu'avait tenté d'ébaucher François Hollande, mais le costume du président jupitérien, qui rappelle au fond le costume de Jacques Chirac et surtout François Mitterrand avant lui. Donc il y a un style de gouvernement macroniste et un style de ses ministres qui est un style tout à fait classique, qui n'assume pas du tout une rupture avec ce qui s'était passé auparavant. Ce style de gouvernement a fait que, pour le coup, dans les médias, aux yeux d'une partie des observateurs et observatrices, Emmanuel Macron a bénéficié d'une forme de présomption de crédibilité. Il avait l'air crédible. Il avait l'air de savoir ce qu'il disait. Il employait des mots compliqués. Il nous expliquait qu'il avait lu Jürgen Habermas et qu'il était tout à fait féru de philosophie. Et d'ailleurs, il a été l'assistant de Paul Ricoeur. Et au fond, rien ne lui tient à cœur que l'intersubjectivité habermasienne. Moi, je suis un disciple de Jürgen Habermas qui a conceptualisé en partie l'idéal de démocratie délibérative. Pour avoir travaillé sur Habermas, pour l'avoir lu, pour en avoir fait une source de ma thèse, je peux dire que quand Macron cite Habermas, il dit n'importe quoi, n'importe quoi. Et sa pratique du pouvoir n'a pas le début du commencement d'un atome d'idéal habermasien. Habermas, c'est la démocratie délibérative, c'est le fait de remettre au centre du jeu les citoyennes et les citoyens pour tenter de leur redonner une partie de l'élaboration de la décision, ou du moins de la délibération de la décision. Emmanuel Macron a piétiné les délibérations des citoyennes et des citoyens, la Convention citoyenne pour le climat, le grand débat national, les élections de 2024. Bon. Mais par contre, il a l'air de parler bien. Alors, il dit n'importe quoi. Il emploie des mots qui, souvent, veulent dire le contraire de ce qu'il leur fait dire. Parfois, on se demande même si lui a la moindre idée de ce qu'il raconte. Parfois, il est même attrapé à avoir des métaphores qu'un enfant de 5 ans n'oserait pas. Hein. Bon, souvenez-vous de les carnivores et les herbivores. Souvenez-vous de... Là, ici, vous êtes assis, mais vous n'excluez pas de vous lever. Bon, c'est-à-dire que c'est... Mais à côté de ça, hein, poudre de perlimpinpin, saperlipopette, il y a des mots compliqués. Et donc, il a bénéficié dans son éthos d'une forme de présomption de crédibilité. Et en parallèle de ça, il a tenu un discours sur la vérité. N'oubliez pas que une des premières prises de parole marquantes d'Emmanuel Macron, c'est « Make our planet great again ». Au moment où Donald Trump est élu et où Donald Trump s'affiche déjà à l'époque comme un acteur qui va profondément faire reculer la lutte contre le réchauffement climatique, Emmanuel Macron lui dit « Bah nous, on va au contraire montrer l'exemple. Et au-delà, nous, on va respecter la science. » Encore il y a quelques mois, Emmanuel Macron recevait à la Sorbonne une délégation de chercheurs et chercheuses américaines et américains et disait « Chercheurs, chercheuses, opprimés chez vous, venez chez nous. Nous, nous respectons la science, nous respectons la vérité. » Il dit ça alors que quelques mois plus tôt, il avait tous les chercheurs et toutes les chercheuses contre lui parce qu'il voulait opprimer les libertés académiques. Il dit ça alors que 2 ans plus tôt, il a sa ministre de l'Éducation supérieure, Frédéric Vidal, qui s'est fait attraper la veste par le CNRS et la Conférence des présidents des universités parce qu'elle a fustigé l'islamo-gauchisme dans les universités et que le CNRS a dit « Pardon, madame, le rapport que vous nous demandez, on ne peut pas le fournir parce que le mot n'a aucun sens. Il ne veut rien dire. C'est simplement une arme de stigmatisation, de disqualification. » Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que fustiger le wokisme à l'université, c'est aussi ce que fait Bolsonaro, c'est aussi ce que fait Trump. Donc, voyez que il a tout à la fois contredit brutalement le réel, les yeux dans les yeux. Il a été un agent de désinformation en France. Il a laissé la parole officielle être contaminée par les mensonges. Et en parallèle, il fustigeait ceux qui faisaient pareil à l'étranger. Et il se prétendait, lui, défendre un idéal de vérité. Et il le faisait avec de suffisamment belles cravates et des mots suffisamment compliqués pour qu'on lui passe une forme de présomption de culpabilité. Et c'est aussi pour cela que j'ai voulu écrire ce livre, pour clamer le plus fortement possible à la surface du débat public français, en tout cas avec tout l'écho que je pouvais avoir ou tenter d'avoir, l'idée que non, on ne peut pas dire ça, c'est factuellement faux. Emmanuel Macron n'a pas été un défenseur de la vérité contre la vague populiste comme il le présente. Il a été, en France, l'agent de la désinformation et celui qui aura fait basculer notre démocratie dans la logocratie.
Et Georges Clounet n'est visiblement pas au courant. Et dans cette réflexion que vous avez sur ce plateau et à la fois dans ce livre, vous citez aussi Bernard Manin qui dit « Non, la démocratie, ce n'est pas un assemblage des idées les unes à côté des autres, c'est ce que nous allons en faire en transformant les idées dans le débat public. » Alors quoi ? Nous ne sommes plus prêts à débattre ?
Ok, là on arrive au point central et névralgique du livre. Parce que jusqu'à présent, finalement, je décris la logocratie comme une forme de pratique de gouvernement. On pourrait me dire, bon, ok, c'est une pratique du gouvernement au sein de la démocratie, au sein de l'idéal démocratique et des institutions démocratiques. Et d'ailleurs, j'attire l'attention sur le fait que, certes, on ait vu en France certaines institutions, certaines libertés consubstantielles à l'état de droit être remises en cause, mais au fond, est-ce que ça n'est pas simplement une forme de penchant autoritaire ? Comment est-ce que tout cela s'articule ? Comment est-ce que on peut articuler réellement, d'une part, la logocratie comme pratique du pouvoir, et d'autre part, une forme de corruption de l'idéal démocratique lui-même ? Question d'autant plus essentielle que les institutions de la démocratie demeurent. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de rappeler. Les institutions de la démocratie représentative demeurent en France, oui. On a toujours des élections. Alors, étonnamment, les dernières qu'on a eues n'ont pas eu d'effet. Et je trouve qu'on a passé là-dessus un peu trop rapidement. Mais bon, on a toujours des élections. On peut se rendre aux urnes, on a un isoloir, on est libre du bulletin qu'on glisse dans l'urne. Et demain, l'année prochaine, il y aura des élections, une élection présidentielle. Personne n'imagine, on peut se tromper, mais je serais pour le coup surpris, Emmanuel Macron tenter un coup d'État en France comme l'a fait Donald Trump aux États-Unis. Donc il y aura une élection présidentielle, elle sera sans doute suivie des faits, sans doute. Bon. Il y a encore une forme de liberté de la presse. Oui, certes, bien sûr, les journalistes sont parfois tenus, mais bon, malgré tout, la presse peut encore écrire ce qu'elle veut. Il y a une liberté d'expression des citoyennes et des citoyens. Alors attention, des fois... Il y a quand même des procès, bon, mais il y a quand même une liberté d'expression. D'ailleurs, j'en suis la preuve. Regardez, je peux m'exprimer ici et je n'ai pas un fusil braqué sur la tempe et je n'ai pas des agents d'une milice présidentielle qui m'attendent à la sortie.
Mais ça, c'est ce que vous croyez.
C'est ce que j'espère. donc, on pourrait me dire, au fond, les institutions de la démocratie demeurent et n'es-tu pas un peu catastrophiste ? Bernard Manin, mais avec lui, Jürgen Habermas, et d'une manière générale, de nombreux théoriciens du politique qui ont travaillé justement sur l'idéal de ce que pourrait devenir la démocratie représentative, je le dis autrement, sur l'idéal de ce que devrait être la démocratie représentative. De nombreux chercheurs et chercheuses, donc, et parmi les plus éminents, Bernard Manin en France, Jürgen Habermas en Allemagne, en sont venus, je ne vous fais pas tout le raisonnement, ça nous prendrait la soirée, mais en sont venus à la conclusion fermement établie, selon laquelle une démocratie, ça n'est pas que des institutions. C'est aussi une pratique essentielle, la pratique du débat public. Et en fait, on peut le comprendre assez simplement. La démocratie ne saurait en aucun cas être ramenée à l'élection. Pour que nous puissions, nous autres, citoyennes et citoyens, nous dire libres, pour que nous puissions avoir l'impression, et au-delà de l'impression, avoir la conviction de décider de notre avenir en commun, ce qui est la définition même de la souveraineté populaire, la capacité pour le peuple de décider de son avenir en commun. Pour que nous puissions dire que nous décidons de notre avenir en commun, il ne suffit pas que nous puissions voter. Il ne suffit pas que nous puissions glisser un bulletin dans l'urne. Il faut encore que ce bulletin nous permette de choisir précisément des orientations politiques. Si les élections sont un simple concours de popularité, si les élections sont simplement le concours de celui qui aura eu la meilleure communication sur TikTok ou sur Instagram, ou qui aura fait la meilleure photo de chat postée sur ses réseaux sociaux, ou qui aura recruté le meilleur monteur pour surfer sur les meilleurs mèmes sur TikTok, si c'est ça les élections, alors elles n'ont rien de démocratique. En aucun cas, elles ne nous permettent à nous autres citoyennes et citoyens de décider de notre avenir en commun. Pour que les élections puissent être dites démocratiques, il ne suffit pas que nous puissions voter. Il faut que ce vote puisse nous permettre de décider ce que nous allons faire collectivement. Et par quoi cela passe ? Par le débat public. Ce que souligne Bernard Manin comme Jürgen Habermas, c'est l'idée d'une part que dans le débat public, dans nos délibérations, dans notre confrontation les uns avec les autres, oui, nous transformons nos opinions. Oui, la démocratie, ce n'est pas une accumulation de points de vue, c'est le fait que ces points de vue se confrontent les uns aux autres et que nous nous convaincons parfois et que nous nous améliorons ensemble et que nous progressons vers des idées de plus en plus fermement établies, des jugements de mieux en mieux établis. C'est l'idée, idée idéale, certes, ce que lui-même estime être un idéal régulateur, mais belle idée malgré tout de Jürgen Habermas qu'il appelle la force non violente du meilleur argument. L'idée que la démocratie, ça doit être de progresser vers la force non violente du meilleur argument. Essayer de progresser les uns et les autres, à minima, dans notre réflexion. Et ce faisant, de nous forger notre opinion. ce faisant de nous forger notre opinion et de voter en conscience. Non pas parce qu'un tel nous plaît, non pas parce qu'il parle bien, non pas parce qu'il est sympathique sur ses réseaux sociaux, non pas même parce que son discours nous a plu, mais parce qu'on a pu se forger notre idée sur son programme, sur ses déclarations, sur ses valeurs, sur ce qu'implique son idéologie, et que c'est dans cette direction que nous voulons aller, et c'est pour cela que je vote pour lui ou pour elle. Mais pour nous forger cette idée, encore faut-il que le débat public soit fécond, qu'il éclaire notre réflexion, qu'il éclaire notre jugement. Quand le débat public est corrompu par les mensonges, et les mensonges de celui qui devrait précisément en garantir l'intégrité, c'est-à-dire le gouvernement. Quand le débat public est corrompu par les mensonges, alors c'est l'idéal démocratique lui-même qui s'effondre. C'est précisément notre faculté à nous forger un jugement éclairé qui est menacée, qui est contrainte par celui-là même qui devrait la garantir, le gouvernement. Et c'est quand le débat public s'effondre sur lui-même, quand il nous devient impossible de nous forger une idée éclairée sur des décisions prises en notre nom, que le débat public devient une simple affaire d'apparat, une simple affaire d'image, un simple concours de popularité, un concours de celui qui aura les meilleurs réseaux sociaux ou les plus belles unes sur les magazines. Et ça, c'est plus la démocratie. Les institutions demeurent peut-être, les élections se déroulent, mais l'idéal démocratique lui-même, celui qui veut que nous puissions décider ensemble de ce que nous voulons faire de notre société, de notre pays, de notre nation, cet idéal s'est effondré sur lui-même. Il a été dévoré de l'intérieur par le poids des mensonges. Et c'est à partir du moment où ce débat public s'effondre et où il nous devient impossible de saisir le réel, parce qu'il nous devient impossible d'en discuter, parce que les faits ont été camouflés derrière les mensonges, parce que les mots ont été retournés contre eux-mêmes, parce que Emmanuel Macron se revendique par exemple de l'héritage du CNR, le Conseil National de la Résistance, alors qu'il en a détricoté précisément tout l'héritage, alors qu'il s'est attaqué aux retraites, alors qu'il s'est attaqué au statut de la fonction publique, alors qu'il s'est attaqué à l'assurance chômage, et il a le droit de le faire. Et on a le droit de penser que ce sont de bonnes solutions, on peut en débattre. Mais on n'a pas le droit de le faire tout en se revendiquant de l'héritage du CNR. C'est là où il y a une arnaque formidable, un mot qui a été retourné sur lui-même. Déconstruire l'héritage du CNR par celui qui se revendique de l'héritage du CNR. Emmanuel Macron, ça vous surprendra peut-être, il se revendiquait fut un temps du revenu universel. Incroyable. Il s'est revendiqué du revenu universel d'activité. Alors même qu'évidemment, il y est opposé par toutes les fibres de son être, que jamais il n'a plaidé pour cette idée, que jamais il ne voulait le faire, que jamais il ne le fera. Pourquoi a dit comment enfin, en quelles circonstances a-t-il dit cela quand il défendait une autre mesure qui porte un autre nom, qui s'appelle en réalité l'allocation sociale unique, le fait de rassembler en une seule et même allocation ce qui fait aujourd'hui l'objet de plusieurs versements, les APL, le RSA et d'autres aides que lui voulait rassembler en une seule aide, une allocation sociale unique. Bon, on peut plaider pour une allocation sociale unique. Il continue de le faire aujourd'hui en l'appelant d'ailleurs allocation sociale unique. C'est peut-être une bonne idée. Les économistes débattent de cela. Mais Emmanuel Macron n'a pas dit à l'époque 2020, qu'il voulait faire une allocation sociale unique, il a dit « je veux faire un revenu universel d'activité ». C'est-à-dire qu'il a prétendu s'emparer d'un mot qui était clairement défini, dont tout le monde savait ce qu'il voulait dire. Benoît Hamon venait de le porter dans le débat public et il l'a retourné contre lui-même pour dire tout autre chose. Et je pourrais continuer comme ça. Et ces mots-là, ils infiltrent ensuite notre parole. Prenons l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, ce mot n'a pas de définition. C'est pas moi qui le dis, c'est le CNRS. C'est la conférence des présidents d'université. C'est un pur mot épouvantail, utilisé simplement pour jeter la disqualification tout à la fois contre la gauche et les citoyennes et les citoyens musulmans, la religion musulmane de manière générale, en même temps, d'un seul et même geste. Il n'y a pas de définition au mot islamo-gauchiste. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Et pourtant, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a employé ce terme. C'est Jean-Michel Blanquer qui l'emploie à l'Assemblée nationale. C'est Frédéric Vidal, ministre de l'Éducation supérieure, qui demande un rapport sur l'islamo-gauchisme qui gangrène l'université au CNRS. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Certes, le CNRS nous dit que le mot ne veut rien dire. Certes, la conférence des présidents d'université aussi. On en a parlé tout à l'heure, mais ce dont on n'a pas parlé, c'est ce qui se passe ailleurs, lors des dîners de famille, lors des apéros entre amis, à la machine à café, où là, tout d'un coup, nous autres, citoyennes et citoyens, discutons de l'islamo-gauchisme. On en parle. On va critiquer un tel orateur politique qui est un peu trop islamo-gauchiste. On va se demander si Michel de la Conta, ce serait pas un islamo-gauchiste. On va se demander si, quand même, les voisins d'en face, ce serait pas un peu des islamo-gauchistes. Et voilà les citoyennes et les citoyens qui vont discuter entre elles et entre eux, du revenu universel d'activité que veut faire Emmanuel Macron, sauf que ce n'est pas un revenu universel. Qui vont se demander si ce gouvernement, quand même, n'est pas une bonne chose parce qu'il prolonge l'héritage du Conseil national de la Résistance alors qu'il le déconstruit. On a des citoyennes et des citoyens qui vont se demander si un tel ou un tel n'est pas un peu islamo-gauchiste, alors que le mot n'a pas de définition. Et là, on voit que c'est vraiment notre débat public à nous qui s'effondre. Parce que non seulement, quand les responsables politiques mentent, ils nous empêchent de nous forger un jugement sur leur action, mais quand ils emploient des mots en leur faisant dire le contraire aujourd'hui de ce qu'ils disaient hier, c'est notre langue qu'ils corrompent. C'est dans notre langage qu'ils s'infiltrent. C'est jusqu'à nos débats qu'ils influencent. Et c'est le débat public français qui s'effondre sur lui-même et qui finit par tourner en rond autour de termes tels que l'islamo-gauchisme qu'ils ne veulent rien dire. Et ça, on le doit au gouvernement, d'avoir corrompu ce qui est au cœur de l'idéal démocratique lui-même avec le basculement logocratique, le débat public. Et c'est en cela que je dis que quand la pratique du pouvoir bascule dans la logocratie, c'est la démocratie elle-même qui s'effondre sur elle-même, non pas dans ses institutions qui demeurent, mais dans son idéal qui, lui, silencieusement, sans que l'on en s'aperçoive, à bas bruit, mais de manière tangible, grave et concrète néanmoins, le débat public qui disparaît.
Je vais vous poser une dernière question et il va vous rester 4 minutes pour y répondre, malheureusement, parce qu'on resterait bien avec vous plus longtemps. On le voit bien, hein, et dans votre livre, vous le précisez, il s'agit d'attention, il s'agit d'exigence aussi, et il s'agit de la force des mots, qui sera, on l'a bien compris ce soir, plus que jamais démontrée, pour celle d'un pouvoir autoritaire ou sécuritaire, mais aussi, parce que vous le dites dans votre livre, bien nommer, c'est aussi commencer par résister. Vous nous invitez aussi à faire très attention aux clichés, notamment à celui dit, entre énormes guillemets, du bon sens. Et donc, en 4 minutes, Clément Viktorovitch, s'il vous plaît, par quoi commencer, finalement, quand on a envie de résister, quand il faut résister, par quoi commencer?
Ok.
Ouais, ça c'est un bon défi pour vous, quand même.
Je pense que je peux le faire.
J'en suis certaine.
La première chose... Je vous livre une conviction qui est la mienne. Pas une analyse, pas un résultat de recherche, pas un fait, une conviction, et je l'assume comme telle. Je suis convaincu que nous sortirons de la logocratie non pas en demandant aux responsables politiques de bien vouloir cesser de mentir. Je ne crois pas à la demande polie. Je ne crois pas qu'il revienne aux citoyens et aux citoyennes de demander poliment aux responsables politiques, s'ils veulent bien, s'il vous plaît, soyez gentils, pensez à nous, ayez un atome de bienveillance, d'arrêter de mentir. Je ne crois pas que ça se passera comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, le débat public, il devrait être reconquis par les citoyennes et les citoyens, elles-mêmes et eux-mêmes. Un, je crois aujourd'hui, plus que jamais, à l'intersubjectivité. Je crois plus que jamais que la démocratie ne sera pas reconquise de manière liquide, fluide, numérique par les réseaux. Je crois que la démocratie sera reconquise comme on le fait en ce moment, en se rassemblant de manière physique, chaleureuse, vibrante, dans une même pièce, en un même endroit, et en débattant, discutant, délibérant les uns avec les autres. Je crois plus que jamais à l'idéal tel que je l'ai vu s'exprimer pendant le mouvement des Gilets jaunes sur les ronds-points, où on a vu les citoyennes et les citoyens descendre de chez eux, investir les places publiques, se rassembler, débattre, délibérer, mettre en commun leurs expériences sensibles, mettre en commun leurs douleurs, leurs difficultés, leurs humiliations parfois, et constater que, précisément, elles étaient communes. Que non, si la vie est dure, si l'existence est désagréable, si on n'y arrive pas, si on vit une vie qui paraît parfois insupportable, ça n'est pas seulement parce qu'on n'a pas fait assez, ça n'est pas seulement parce qu'on n'a pas été méritant, qu'on n'a pas fait les bons choix, qu'on n'a pas assez bien travaillé à l'école, qu'on n'a pas fait les bons choix ensuite, qu'on n'a pas assez bien travaillé ensuite. C'est aussi et plus généralement parce qu'un système pèse sur les citoyennes et les citoyens, un système de domination contre lesquels on veut lutter. Et pour lutter, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on recrée justement de la démocratie. Pourquoi est-ce que les Gilets jaunes, qui descendent sur les ronds-points parce que l'essence est trop chère, 2 semaines plus tard, parlent de démocratie participative, parlent de référendum d'initiative citoyenne, parlent de reconnaissance du vote blanc? Parce que précisément, ils et elles ont créé du commun à partir de leurs souffrances individuelles et ont compris que derrière ces souffrances individuelles, il y avait une domination systémique. Moi, aujourd'hui, je crois en cela. Je pense que nous reconquérerons la démocratie ensemble, chacune et chacun, en recréant de la chaleur humaine, en nous rassemblant dans des espaces quels qu'ils soient, dans des librairies, comme aujourd'hui, dans des conférences, bien sûr, dans des salles de théâtre. C'est aussi la raison pour laquelle tout ce dont je parle ici, j'ai décidé de l'incarner sur scène, dans une pièce de théâtre qu'on a appelée « L'art de ne pas dire ». C'est aussi pour pouvoir, non pas simplement le crier moi devant l'œil froid d'une caméra, mais pouvoir le vivre et le faire vivre dans une salle où nous sommes des centaines, des milliers parfois rassemblés, expérimentant la même réflexion en un même lieu et un même moment. Mais il faudra aller plus loin. Il faudra réinvestir les structures associatives, les structures partisanes peut-être, descendre, tisser du lien partout où nous le pouvons. Moi, je crois plus que jamais que la démocratie, elle se reconstruira par la base, par les liens entre les citoyennes et les citoyens. Et alors, peut-être que demain, ça prendra encore d'autres formes. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'il faudrait créer des agora citoyennes, des maisons du peuple dans tous les quartiers, dans toutes les communes, dans toutes les villes et tous les villages. Peut-être que c'est des agora citoyennes, des maisons du peuple, peut-être que c'est des maisons France Service, peut-être que c'est des bars associatifs, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que tout partira de la base d'un endroit où nous pourrons nous rassembler les uns et les autres et sentir notre présence concrète, chaleureuse, voir les corps vibrer quand nous parlons, sentir la conscience de l'autre s'infléchir quand nous argumentons, sentir nos propres pensées être modifiées au contact de l'autre. Moi, je crois à cela. Je crois plus du tout que la démocratie partira du haut, numériquement, en utilisant des plateformes, en utilisant des grands outils participatifs qui sont très bien par ailleurs. Moi, je crois que ça partira de la base. Donc, ça, c'est ma première conviction. Je pense qu'il faut que nous trouvions à nous rassembler. Et ma deuxième conviction, et je conclurai par là où j'ai commencé, je crois que ce que nous pouvons faire déjà aujourd'hui, tous, chacun et chacune, pour résister, c'est reconquérir notre colère et notre indignation. L'ère de la post-vérité prolifère sur notre résignation face aux mensonges. L'ère de la post-vérité prolifère quand nous abdiquons notre capacité à nous indigner. Or, c'est grave quand un responsable politique ment. C'est grave quand une personne investie de la puissance publique nous ment les yeux dans les yeux. C'est grave quand un porte-parole contredit le réel, même quand c'est quelqu'un dont nous partageons les opinions, les convictions et qui peut défendre nos valeurs et nos intérêts. Et moi, je pense que nous devrions commencer par reconquérir notre capacité à nous mettre en colère, à nous indigner et à le dire quand un responsable politique abîme la parole publique. Parce qu'abîmer la parole publique, c'est aussi abîmer la démocratie.
Merci de nous avoir fait l'honneur de venir nous voir. Clément Viktorovitch, merci beaucoup.
Merci beaucoup.